Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons avec Carla chaque semaine un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous permettre de trouver votre voie dans l'océan des métiers possibles. Aujourd'hui sur Vocation, nous rencontrons Antoine de Méreuil, senior sales chez Alan. En école de commerce, Antoine a été entrepreneur à plusieurs reprises, animé par l'envie d'intégrer le monde professionnel. Sa dernière boîte n'ayant pas réussi à lever de fonds, Antoine doit choisir son premier poste, d'abord en alternance puis en CDI. Et très naturellement, c'est le poste de commercial qui s'impose à lui. Il intègre ainsi Frishti dans l'équipe sales, d'abord en tant que business developer, puis en montant en responsabilité vers un poste avec plus de management. Frishti d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme de préparation et livraison de repas à la grosse start-up française. Son poste aujourd'hui, senior sales chez Alan. Alan, c'est la start-up française qui veut transformer la santé en ayant commencé par s'attaquer aux mutuelles, en proposant une nouvelle assurance santé. C'est depuis sa création 125 millions d'euros levés et plus de 200 collaborateurs sur bientôt 3 géographies. Et chez Alan, Antoine est commercial sur le lancement d'une nouvelle verticale d'activité. Je vous recommande cet épisode pour découvrir concrètement le métier de commercial dans deux startups à connaître de la French Tech et pour recevoir plein de très bons conseils pour réussir son orientation professionnelle en sortant d'école. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Antoine. Bonjour Antoine.
Salut Jasmine, ça va ?
Très bien, et toi ? Merci d'être ici. J'aimerais bien commencer par une petite question préliminaire. C'est qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Bonne question, pas mal de trucs. J'ai eu plusieurs phases, je pense. Je pense que j'ai longtemps voulu être vendeur dans une boutique parce que je me disais trop bien, je pourrais vendre des trucs et je pourrais parler avec des gens toute la journée. Donc ça s'est arrivé assez tard en me disant, tiens, enfin assez tard non, mais au collège en me disant trop cool, vendre ses propres fringues par exemple dans une boutique et donner des conseils aux gens, ça peut être assez marrant. Et voilà, sinon ça a été une petite phase et sinon j'ai toujours voulu avoir un job avec de l'impact. Donc j'ai voulu être président pendant quelques mois en me disant que en cherchant le job qui avait le plus d'impact que je pouvais potentiellement faire dans ma vie, en poussant le truc un peu loin, ça serait potentiellement ce que je pouvais faire. Donc ça n'a pas duré longtemps, cette phase-là, mais voilà, chercher en gros, pour résumer, un truc avec beaucoup d'impact, mais avec une vision un peu forte, pas que de l'impact sur mon job, mais un impact un peu plus global. Et un truc où je peux avoir un échange avec des gens, de quelque manière que ce soit, au cours de ma carrière et au cours d'une journée basique, quoi.
Ouais. Bah voyons comment ça a évolué. Est-ce que tu peux me re-raconter un peu ton parcours académique et tes différents choix en termes d'éducation et ensuite de premières expériences professionnelles pour reposer un peu le contexte?
Yes, carrément. Comment résumer ça? Donc, si je pars au lycée, on a monté un premier truc au lycée avec des potes qui a bien marché, qui était un projet assez cool qui m'a permis de moins me concentrer sur un peu d'autres trucs que mes cours parce que j'étais assez peu scolaire pendant toute ma scolarité. Donc dans ce cadre-là, j'ai décidé de faire une école de commerce post-bac pour deux raisons. La première, c'est que ça me permettait de faire de l'alternance assez vite et donc de pouvoir lancer des projets, et également parce que c'était pas trop mon schéma de faire une prépa au vu de ce que j'avais fait avant. Donc je suis arrivé en école de commerce en post-bac, j'ai fait un peu une pause de projet pro que j'avais déjà commencé au lycée pour me consacrer à un BDE qui m'a pris deux ans assez intenses. C'était pas une boîte mais quasiment, on était beaucoup et donc ça prenait pas mal de temps de gérer tout ça. Ensuite j'ai monté un second projet donc en troisième année d'école, donc c'est là où j'ai commencé l'alternance pour pouvoir faire cours plus développement de projet à côté. Donc c'était une marque de sac à dos qui s'appelle Gerride, qui existe toujours d'ailleurs. Ensuite on a remonté un deuxième projet avec ce même groupe là et ces mêmes associés qui s'appelle The Tops, qui pour le coup n'existe plus. C'est un projet qu'on a racheté grâce à Gerride, la marque de sac à dos. Donc ça c'était durant mon début de master, mon master 1. Donc là c'est le moment où je suis arrivé à l'ESCE en master. Donc j'avais fait une première école post-bac qui s'appelait à l'époque l'ESG, qui s'appelle PSB maintenant. Après je suis arrivé en master à l'ESCE. Donc j'ai continué à développer ces deux projets là, Gerai et The Tops. On a ensuite monté une boîte avec deux potes, deux associés d'école qui s'appelle I Know a Guy, qui était une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du service. C'est la première boîte pour laquelle on a essayé de lever des fonds, ce qui n'était pas le cas avant, parce que je m'étais associé avec des mecs un peu plus âgés qui avaient déjà des projets en cours. Donc on devait lever, on a raté cette levée de 300 000 euros, ce qui a fait que le projet était pas mal remis en cause. Donc on a finalement arrêté, et c'est ce qui m'a ensuite conduit vers Frishti, où je suis arrivé en 2017, d'abord en alternance. Donc en fait, Frishti, c'était mon alternance de Master 2. Donc j'ai fait 8 mois en alternance, je crois, à la fin de jusqu'à être diplômé. Et voilà, et ensuite je suis arrivé chez Alan, mais du coup on a un peu fait le tour du parcours scolaire, parfois un peu chaotique, mais au moins complet.
Et comment est-ce que tu es arrivé à équilibrer un peu cette double vie d'entrepreneur et d'étudiant, et en plus jalonner d'expériences professionnelles avec tes différentes expériences au cours de tes études?
Franchement, c'est une super école. C'était en ça que j'ai le plus appris, parce que j'étais chez mes parents à l'époque, donc j'étais à 1 heure de Paris, donc j'avais pas mal de trajets. J'avais pas la simplicité que j'ai aujourd'hui d'être très proche de tout. Et en plus, j'avais de temps en temps dans la semaine, je devais aller dans ma boîte, de temps en temps, je devais aller à l'école, de temps en temps, je devais avoir des rendez-vous par-ci par-là. Donc c'était très, très intense. Et ça, c'est assez formateur, parce que même si aujourd'hui j'ai beaucoup d'intensité dans tout ce que j'ai pu faire ensuite, cette intensité-là, un peu psychologique, je l'ai jamais trop retrouvée. Donc c'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible, et ça requiert énormément d'organisation, et ça après te met dans des super conditions, je trouve, pour démarrer une vraie vie pro, ou une vie pro peut-être d'adulte, parce qu'en ayant fait ça, tu te dis bon, après ce que je vais faire, ça va peut-être être beaucoup plus dur et beaucoup plus intense à plein de niveaux, mais au moins sur l'intensité que ça me demande, ça me barre assez haute dès le départ, ce qui fait que ça te met dans des bonnes conditions, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à le gérer parfaitement, et je ne sais pas si quelqu'un arrive à le gérer parfaitement, mais au moins, c'est une bonne école, quoi.
Et je suis curieuse de savoir, du coup, comment tu as choisi un peu ton poste, notamment pour ton alternance chez Frishti, qui a ensuite lancé ta carrière professionnelle post-études, si on l'appelle comme ça. Du coup, un peu pour reprendre, c'était quoi tes rôles dans tes différentes expériences entrepreneuriales, et du coup, comment tu as choisi le poste vers lequel tu t'es engagé en alternance et ensuite dans ta carrière pro?
Ouais, en gros, sur les expériences que j'ai fait avant, et quand j'étais plutôt à mon compte, je me suis toujours plutôt occupé des sujets de management et de distribution, donc de sales selon le produit, hein, mais de canaux de distribution, de management d'équipe commerciale potentiellement, ces sujets-là. Donc c'est ce qui m'intéressait pour la suite, ça c'était plutôt très clair dans ma tête. Et ce qui m'a un peu limité dans les projets que j'ai montés, c'est toujours un peu l'ambition qu'on a eue, à part pour celui sur lequel on a essayé de lever de l'argent. Mais donc c'était toujours assez limité en termes d'ambition, et surtout très limité en termes de vision. C'est toujours des projets qui avait pour vocation de vendre X trucs, faire X choses, etc. Mais c'était toujours assez limite dans l'approche qu'on en avait. Et donc, moi, je savais que je voulais aller dans une boîte qui avait une ambition que je pouvais pas créer à mon niveau, au niveau auquel j'étais à ce moment-là. Donc, plutôt une start-up scale-up à peu près à l'époque de la taille de Frishti, c'est exactement ce que je recherchais. Donc, j'avais des discussions, les trois boîtes avec qui je discutais, d'ailleurs, c'était Frishti, Conto et Cheers, donc des boîtes qui étaient à peu près au même stade à l'époque. Le sujet était assez clair. En gros, moi, je voulais faire du sales à fond, je voulais me perfectionner dedans, je voulais faire du management assez vite, et le métier de sales peut te permettre d'en faire assez vite selon ta personnalité, évidemment. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé chez Frishti, pour être entouré de gens assez brillants qui allaient pouvoir m'apprendre plein de choses, être dans un environnement ambitieux où on allait pouvoir se donner un peu les moyens de faire ce qu'on voulait faire, et voilà, avec un produit et une vision qui était sympa, quoi.
Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en quelques mots exactement ce que fait Frishti pour ceux qui ne connaissent pas?
Ouais, alors Frishti, c'est une start-up française qui fait de la livraison à la base de repas, et depuis 1 an et demi, 2 ans également de courses, donc pas mal de produits d'épicerie bien choisis, vendus en ligne. Et donc l'idée, c'est de se faire livrer très rapidement tous ces produits-là chez soi, d'abord à Paris, en Ile-de-France, depuis peu partout en France, sur la partie des produits d'épicerie. Donc il y a plus de 600 références sur le site. Et donc c'est une start-up française, qui existe depuis 4 ans, 4 ans et demi maintenant, qui fonctionne bien. Et j'y ai bossé, moi, pendant 3 ans, à peu près un peu moins de 3 ans.
Oui, bah justement, venons-en à ton métier. Et puis du coup, ce sera l'occasion de découvrir ton nouveau poste chez Alan. Donc toi, tu es sales ou commercial en français. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi consiste concrètement ce métier si tu devais vraiment le définir très rapidement?
C'est compliqué parce que sales, c'est un mot qui englobe peut-être 50 métiers différents, qui sont évidemment tous liés à la distribution. Donc, prendre un produit et faire en sorte de le distribuer sur un marché précis. Chez Frishti, c'était sur un marché B2B. Donc, sales, c'est souvent le cas. Donc, Frishti, le business historique, c'est du B2C. Donc, l'achat en ligne par des consommateurs finaux qui payent directement. Et moi, je suis arrivé pour lancer cette partie plutôt B2B. Donc de dessiner une offre chez Frishti qui sera adaptable à un marché d'entreprises qui vont le consommer plutôt que de particuliers, avec les produits qu'on a déjà mis en place. Et donc voilà en gros ce qu'a été mon rôle d'abord dans mon alternance et dans les premiers mois. On était une petite équipe assez restreinte, on bossait tous sur beaucoup de sujets, on a fait un peu de produits, un peu de construction de nouvelles offres, de la distribution un peu chacun, de l'inbound, de l'outbound, bon bref, plein de sujets sales qui sont peut-être un peu plus techniques, mais bref, on a fait beaucoup beaucoup de sujets, on s'est pas mal réorganisé quelques mois après, et donc à ce moment-là, moi je me suis beaucoup concentré sur du biz dev pendant quelques mois, on était deux à se concentrer sur ce fameux sujet de biz dev, donc là qui est de l'acquisition client pure, donc aller chercher les nouveaux clients et les convaincre de travailler ensemble. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Après, j'ai fait du biz dev management. Donc là, j'ai pris avec moi deux biz dev qui, eux, faisaient ce travail de biz dev. Et moi, mon travail, c'était de les orienter vers les bons endroits et de faire en sorte qu'ils aillent chercher les bons deals et qu'ils le fassent bien. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle plutôt du sales management. Donc, j'étais sales team manager. Et donc là, mon travail, c'était d'avoir tout un portefeuille de clients parce que forcément… Le portefeuille de clients avait grandi au fil des mois, donc d'avoir la responsabilité d'un portefeuille. En l'occurrence, ce qu'on appelait chez nous les key accounts, donc toutes les boîtes de plus de 300 salariés à Paris, ce qui représentait à peu près 6 à 700 clients. Et donc dans cette équipe, j'avais des gens dont le travail était soit d'être biz dev, donc d'aller chercher de nouveaux clients, soit d'être account manager, donc de s'occuper des clients qu'on avait déjà historiquement. Et donc mon travail, c'était deux choses. La première chose, piloter l'activité et faire en sorte que le business grandisse. Et la deuxième chose, de manager ces gens-là et de faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs et qu'ils soient heureux également dans leur poste. Donc, c'est plus un travail d'IC, on appelle ça l'individual contributors, mais plutôt de manager. Donc, tu n'as pas de productivité à proprement parler, mais tu fais en sorte que ton équipe soit productive. Du coup.
Ok. Et après, du coup, tu es depuis… quelques mois, si je ne me trompe pas, chez Alan. Déjà, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que fait Alan et ensuite, justement, comment évoluer ton poste et pourquoi tu as décidé de changer?
Ouais. Donc, Alan, c'est une start-up française également qui existe depuis un peu moins longtemps que Frishti, qui est une start-up qui a pour grande mission de transformer la santé, d'abord en France, mais dans le monde également. Comment est-ce que tu transformes la santé d'abord en étant une assurance santé, donc une mutuelle, c'est un peu le point d'entrée d'Alan sur le marché. Donc Alan, c'est le premier assureur en France depuis 1986. Donc en fait, c'est-à-dire que avant quand tu te faisais assurer, tu avais forcément une offre qui datait de il y a un petit bout de temps. Et donc pour reprendre en très gros le marché que couvre Alan aujourd'hui, c'est en France, 100% des entreprises sont obligées d'avoir une mutuelle pour leurs salariés. Donc tu as d'abord l'assurance maladie qui est ce qui permet de te faire rembourser par l'État, et ensuite des mutuelles qui sont complémentaires, en fait payées par toi et la société, qui permettent d'être mieux remboursé. Donc ça, dès que tu es une boîte, tu es obligé de l'avoir. Donc dès que tu es un salarié, tu es obligé d'être couvert. Et donc les boîtes qui sont sur ce marché-là sont des boîtes qui sont assez connues, qui sont des assureurs un peu historiques, qui se partagent le marché depuis des années, des années, des années. Et Alan est arrivé en tant que premier nouvel assureur depuis 1986 sur le marché français avec de nouvelles offres. Qui change pas mal de choses, notamment sur la digitalisation de ce secteur-là. Historiquement, la mutuelle, c'est un marché un peu complexe où on doit toujours envoyer un papier par la poste. Voilà, ça peut être cher, on peut être mal couvert. Bref, c'est un marché qui est assez complexe. Donc, le but d'Alan, c'est d'avoir des offres qui soient dédiées pour un peu tous les corps de métier, avec une offre 100% en ligne, avec une app, avec un site qui te permet, quand tu dois te faire rembourser, prendre en photo avec ton téléphone et envoyer directement à ta mutuelle plutôt que devoir envoyer un papier par la poste. Et voilà, donc ça, c'est un peu le premier bloc de l'activité d'Alan sur la partie d'assurance santé. La vision et la mission, elle est un peu plus large et un peu plus globale en termes même de territoire. Hein. Alan a ouvert la Belgique et l'Espagne là, très récemment. Et donc, le but, c'est d'être vraiment le partenaire numéro un de la santé sur tous les sujets.
Ok, et ton poste, du coup, tu es parti de chez Frishti et tu es arrivé chez Alan. Déjà, pourquoi cette décision? Et ensuite, en tant que, tu es senior sales, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je suis parti, ouais, en effet, de chez Frishti en mars dernier, donc c'est assez récent. Je suis arrivé là en avril-mai chez Alan, donc c'est tout nouveau. Pourquoi j'ai bougé? J'avais pas forcément de grandes raisons de bouger. C'est-à-dire que ça se passait très bien chez Frishti et ça s'est toujours très bien passé pendant tout le temps que j'ai fait là-bas. Alan est venu me parler il y a quelques temps pour ouvrir une discussion avec moi sur la suite de ma carrière et ce que je voulais faire. C'est des discussions auxquelles j'étais pas insensible parce que c'est toujours une boîte qui m'a beaucoup intéressé. Donc on a ouvert les discussions jusqu'à ce qu'on trouve un accord et qu'il y ait un intérêt commun de leur part et de ma part pour qu'on puisse avancer ensemble. Je suis parti aussi parce que chez Frishti, j'avais pas fait le tour parce qu'on fait jamais vraiment le tour, mais j'avais fait un peu le tour de ce que moi je pouvais apprendre. J'étais dans une position où j'apprenais beaucoup aux gens, mais j'apprenais un peu moins moi de mon côté et sur des sujets sur lesquels je voulais travailler, de sujets sales un peu plus techniques, etc. C'est vrai que je commençais à être un petit peu limité, donc je me disais que arriver dans un autre environnement, sur un nouveau produit, sur un nouveau marché, ça m'excitait pas mal et ça me faisait potentiellement apprendre pas mal de nouvelles choses. Donc c'est un peu la raison principale. Après, il y a évidemment plein d'autres raisons annexes. Et donc je suis arrivé chez Alan avec un poste assez différent parce que l'organisation de la boîte est très très différente. Donc en fait, il n'y a pas de management chez Alan. Enfin, on pourrait en parler des heures, mais il y a une culture qui est très très forte chez Alan sur beaucoup de sujets. C'est vacances illimitées, grille de salaire 100% transparente. Enfin bref, c'est une culture qui est très forte. Et dans cette culture qui est forte, il y a un aspect qui est qu'il n'y a pas de management. Donc en tant que sales manager dans une autre entreprise ou chez Frishti, comme ça pouvait être mon cas avant, ça peut être amené un petit peu à changer. Donc chacun a un rôle de contributeur à son niveau. Les sales font rarement que du sales et font souvent beaucoup d'autres choses. Donc moi, je suis arrivé pour être senior sales, donc sur une verticale particulière qu'on lance. Donc mon travail, ça va être beaucoup plus de vendre que ce n'était le cas avant. Et après, il y a pas mal d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas de management, mais il y a quand même du coaching, il y a quand même pas mal de montées en compétences à faire auprès de pas mal de monde. Donc il y a quand même des sujets qui s'en rapprochent un petit peu, mais ce qui change beaucoup, c'est que je passe d'un rôle de management et de direction d'équipe commerciale a plutôt un rôle de contributeur individuel, au moins dans un premier temps, sur des sujets précis. Et c'est là où chercher à prendre de la connaissance, c'est sur des sujets un peu plus techniques et un peu plus sales plutôt que sur d'autres sujets.
Oui, tout à fait. Et pour vraiment avoir toutes les clés en main pour comprendre ton poste, donc tu dis qu'il n'y a pas de management. Enfin, vous êtes combien chez Alan et l'équipe commerciale, ça pourrait être combien de personnes pour un peu situer ta place au sein de l'entreprise?
Oui, alors il y a un peu plus de 200 personnes chez Alan. Il y a eu 53 recrutements pendant la période de confinement, donc ça va assez vite. Les équipes du coup en Belgique, en Espagne maintenant. L'équipe sales, c'est 46 personnes. Et en gros, comment est organisée l'équipe sales aujourd'hui? Tu as une personne évidemment qui est à la tête de toute l'équipe revenue, donc qui a une sorte de VP sur toute l'activité sales notamment. Et ensuite, l'équipe sales est organisée par crew. Chaque crew ayant un secteur déterminé à aller chercher et duquel s'occuper. Donc, par exemple, les grands comptes, donc toutes les boîtes de plus de 200 salariés, par exemple, HCR, donc resto, hôtel, sur un secteur particulier également. Donc, il y a des équipes de 8 à 12 personnes qui sont sur chacune des secteurs, sur chacun des secteurs, pardon. Et chacune de ces équipes a ce qu'on appelle un crew lead, qui est la personne qui pas forcément le manager, mais qui n'est pas de manager de ces équipes-là, mais qui a pour rôle de définir la stratégie de conquête, de s'occuper de faire en sorte que voilà, les objectifs sur ce secteur soient remplis à la fin de la saison commerciale, étant donné qu'il y a une saisonnalité commerciale qui est assez forte chez Alan.
Et donc, pour en revenir un peu à ton métier, ce serait quoi une semaine type, un peu dans les différentes missions que tu vas accomplir Donc sur une journée ou sur une semaine, un peu en fonction de ce qui est le plus pertinent.
Bah, ça va pas mal dépendre des moments de l'année et des priorités qui sont mises. Si on prend une période classique en ce moment où on est vachement dans une approche commerciale, étant donné que enfin, le marché pour Alan est assez particulier. En gros, tu es obligé de changer d'assurance en octobre. Donc, en gros, tout se joue entre mai-juin et après en septembre-octobre. Donc là, on est dans une période assez intense en termes de distribution. Donc une semaine type en ce moment, c'est très tourné vers de l'acquisition, aller chercher de nouvelles personnes, aller rencontrer de nouveaux prospects, ouvrir des discussions avec chacun, parce que c'est des sujets qui sont assez importants, assez prenants, qui impliquent pas mal de décisionnaires dans les boîtes, et notamment les fondateurs et les patrons. Donc il y a forcément beaucoup de sujets. C'est des sujets qui sont entre guillemets un peu, enfin c'est des gros contrats assez coûteux entre guillemets, donc forcément le temps de la réflexion se fait toujours au sein des boîtes. Donc là, on est beaucoup dans un moment de contacter les boîtes pour un premier échange, et ensuite venir discuter avec ce lead-là et ce prospect-là pendant un temps donné. Et en général, ça peut être 10 discussions ouvertes avant d'arriver à une première discussion intéressante, le temps de trouver le bon interlocuteur, le temps de comprendre exactement les problèmes que va rencontrer la boîte. Donc, en ce moment, c'est énormément de ça, beaucoup, beaucoup de contacts commerciaux. Le reste du temps, il va y avoir beaucoup de recrutement, parce qu'il y a peu d'équipes RH chez Alan. Donc, chacun va recruter un peu pour son équipe et pour les postes qui sont ouverts autour de soi. Il va y avoir beaucoup de contributions sur beaucoup de sujets. En général, là, en ce moment, on va plutôt être 16 à 90%, mais imaginons, il y a 3 mois, on aurait plutôt été 16 à 40% en travaillant sur d'autres sujets, peut-être de stratégie, peut-être de construction d'outils. Enfin, c'est des postes qui sont assez transverses dans leur approche et dans leur mission.
Et en parlant de la question classique du hard skills, soft skills, etc., mais ce serait quoi les compétences indispensables pour faire ton métier et en faisant un peu une différenciation entre ce que tu as appris sur le tas et ce que tu avais un peu, enfin ce que tu avais en arrivant et ce que tu as appris sur le tas?
Je sais pas si j'avais grand chose en arrivant, parce que j'avais pas eu de formation. Enfin, on n'apprend pas à être sales. Je trouve que la formation que tu fais en général, elle t'aide à prendre du recul sur ce que tu vas faire ensuite et à avoir plein de bases, mais elle te donne rarement, à part sur des métiers peut-être plus autres ou plus techniques, ou sur lesquels il y a des masters qui sont faits pour. Mais moi, il n'y avait pas trop de compétences, enfin, de hard skills que j'avais apprises avant. Donc sur la partie hard skills, il y en a énormément, mais je pense que pour être un bon sales, la première grande compétence, c'est d'être relentless, donc d'avoir une vraie capacité à jamais lâcher et à faire en sorte de get shit down, quoi, de faire en sorte que voilà, l'objectif c'est ça, le haut de la montagne c'est ça. Il va se passer plein de choses sur le chemin pour monter en haut de la montagne, mais mon objectif final c'est bien de monter en haut de la montagne, et donc je fais tout en sorte et je mets tout en place pour faire en sorte que ça se passe. Donc ça, c'est un des plus gros hard skills. Après, il y a besoin de beaucoup de compétences sur des outils, sur des manières de faire, sur du mailing, du phoning, du CRM, des outils même de sociaux, hein, pour arriver à vendre de cette manière-là aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre, et ça, c'est vrai que les compétences sales là-dessus, elles sont super importantes, et souvent recrutées aussi un peu par rapport à tes connaissances dessus. Sur les soft skills, elles sont extrêmement importantes en sales, et d'autant plus. Et enfin, moi, sur tous les entretiens que j'ai fait passer, j'ai souvent beaucoup recruté plus en regardant les soft skills que les hard skills, en me disant bon, si tu as ce niveau-là de soft skills, en fait, tu auras beaucoup plus de facilité à acquérir les hard skills que l'inverse. Donc en soft skills, il faut beaucoup d'empathie pour pouvoir discuter avec des clients. Il faut être un vrai team player, arriver à évoluer en équipe et à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Il y a des listes gigantesques de ce qu'il faut, mais là, pour le coup, ça change pas tant que ça de job. C'est des soft skills qui sont pas mal recherchés en startup en général.
Tu me disais que là, c'était plus la période de rush, mais un peu une question qui nous vient souvent, c'est un peu quelle est ta charge de travail, tu vois, ton équilibre vie pro, vie perso, un peu à quoi s'attendre. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quoi ton expérience sur ce point-là en tant que commercial?
Bah, le gros avantage du job, c'est que tu es vachement indépendant. Moi, quand tu as une équipe, évidemment, mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui est simplement sales et qui s'occupe de son pipe de son côté, tu es très indépendant. Donc, en fait, tu n'es pas staffé, tu bosses pas pour un client qui va te demander des choses. Donc, l'avantage là, c'est que tu organises vraiment ton temps un peu comme tu veux. Après, il est rythmé, évidemment, par la saison commerciale, par la journée, évidemment que si tu veux bosser à 21h, bah, il n'y aura pas grand monde à qui parler. Si tu veux bosser en août, tu n'auras pas grand monde à qui parler. Par contre, du coup, ça s'organise un petit peu de cette manière-là. Mais du coup, tu es très libre sur la manière que tu as de t'organiser. Chaque boîte dépend, chaque boîte est évidemment différente sur le sujet, mais globalement, sur le métier de tel, c'est quand même assez sympa à ce niveau-là. Donc ça implique que forcément, aussi, c'est un job sur lequel tu peux très vite être overachiever, donc dépasser très largement tes objectifs. Donc ça peut être un peu grisant. Je pense qu'il y en a certains qui se limitent un peu au minimum et font leurs objectifs en faisant un peu le minimum. Il y en a qui peuvent vraiment se dépasser en se disant, bah, en fait, le business est infini. Je peux continuer à parler à des clients pendant des heures et des heures. Si je veux travailler le week-end, je peux travailler le week-end. Donc il y en a peut-être qui vont prendre un peu ce rythme-là, mais c'est globalement, ça dépend pas mal de la boîte et de la culture, mais c'est globalement un travail qui est prenant sans être trop contraignant dans la mesure où tu es assez libre. Donc, chez Frishti, c'était des horaires assez basiques. Chez Alan, c'est le cas aussi. C'est des boîtes qui font, via leur culture et notamment chez Alan, qui essaient de laisser vraiment pas mal de place pour ta vie perso, qui essaient d'avoir une balance qui est assez saine, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de cas de nocturne ou de travail le week-end que tu peux retrouver un peu ailleurs.
Tu me parlais de la grille de salaire très transparente chez Alan. Justement, ça m'intéresse de savoir quelle est la grille, en gros, type d'un commercial en start-up pour avoir une idée plus précise de quoi à quoi on peut s'attendre.
Alors, encore une fois, ça dépend vachement du poste que tu vas faire parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de postes en sales. Sur la grille de salaire de Alan, c'est assez intéressant et je pourrais te l'envoyer. En fait, c'est un système de grade en gros, donc qui va de A0, A1, B0, B1 jusqu'à G, je crois. Et donc, plus tu montes, plus le salaire est élevé. Tu as également la partie du tableau qui t'indique vers tes années d'expérience. Plus tu as d'années d'expérience, plus ton salaire est valorisé également. Et tu as également des BSPCE, donc des stock options, qui sont basés de la même manière. Donc, il y a des parts de la boîte et tu en as de plus en plus selon ton expérience. Donc, les salaires que tu peux estimer, ils vont pas mal dépendre aussi de ce que tu vends, hein, de la boîte dans laquelle tu travailles, de sa culture par rapport à ce sujet-là. Mais sur des postes sales, si je prends un peu tout le spectre, on va dire que le poste le plus junior, c'est plutôt un travail, je pense, de SDR, donc Sales Development Representative, qui va être très, très axé sur du call, très axé sur des leads peu qualifiés, sur des leads qui sont un peu plus petits en général. Donc ça, c'est vraiment le premier poste avec zéro expérience pour quelqu'un qui veut faire ce métier-là. Je pense que là, tu peux commencer sur des salaires qui sont entre 28 et 32 000 euros par an fixes, donc sans compter les variables. Sur un travail de sales un peu plus basique en commençant en tant que biz dev, les salaires ils vont de 30 à 40 000 euros bruts, hors variable ou avec variable. En général, tu as un variable derrière qui vient un peu te permettre de craquer un peu le truc et d'aller un petit peu plus loin. Mais non, en package, en début, le travail de sales dans une boîte un peu normale, il est assez peu différent du salaire moyen de sortie d'école. Donc, il va varier entre 30 et 40 000 euros brut, tout compris en première expérience. C'est l'évolution après qui fait un peu tôt, ouais. Bah, tout dépend de ce que tu fais. En gros, si tu restes au même poste et que tu continues à faire à peu près la même chose, tu vas avoir une évolution assez basique qui va être de 5 à 15% par an, par exemple. Si je prends mon exemple à moi, j'ai vite changé de poste et vite pris des responsabilités et vite pris du management. Donc, ça m'a permis d'aller plus vite, je pense, sur ce salaire-là plutôt que ce qui pourrait être le cas ailleurs. La clé, c'est comprendre déjà ce que tu veux faire. Il y a des gens qui veulent vraiment rester sales et rester dans ce métier-là pour apprendre pendant 3-4 ans et du coup qui vont avoir une hausse de salaire qui sera peut-être un peu limitée. Et d'autres qui vont avoir une ambition super forte, qui vont vouloir prendre des grandes équipes, qui vont un peu défoncer leur target sales et qui vont du coup, grâce à ça, pouvoir prendre plus de responsabilités. Ce qui te permet du coup de monter un peu plus vite après, quoi.
Donc après ce parcours chez Frishti et chez Alan, ma question, ce serait un peu comment est-ce que tu te vois évoluer? Là, tu disais que tu avais envie tu avais changé de boulot parce que tu avais envie d'un nouveau challenge. Qu'est-ce que tu vois comme les potentiels next steps pour toi dans ton parcours?
Alors, moi, ce qui m'intéresse pour la suite de ma carrière, c'est deux routes. La première route, c'est potentiellement remonter quelque chose pas tout de suite forcément, mais dans les prochaines années. Donc un nouveau projet qui, à ce moment-là, sera peut-être un peu plus ambitieux que ce que j'ai pu faire avant grâce aux expériences que j'aurais acquises notamment chez Frishti et chez Alan. Ça, c'est la route numéro 1. Et la route numéro 2, c'est une carrière sales qui se décide déjà bien et que j'ai déjà pas mal travaillé. Donc de monter en compétence sur des sujets sales, sur des sujets de management, sur des rôles de VP sales, en gros de management d'équipe de 40 à 50 personnes sur des sujets sales, donc de distribution. Et ça, c'est ce qui m'intéresse à horizon 5 ans à peu près, sur ce type de métier-là, qui est un peu la suite logique dans la carrière que je mène actuellement.
On parlait tout à l'heure des cinquantaines de métiers de sales qui existaient un peu sous l'intitulé de commercial. Mais justement, pour parler de spécificité, quelle serait pour toi, en dehors de l'organisation dont tu m'as déjà un peu parlé, l'unicité, enfin la spécificité même de ton poste en tant que commercial chez Alan ?
Y a plein de choses. Déjà, il y a toute la culture qui est propre à Alan et qui se transmet du coup à l'équipe sales, qui est une culture de la confiance, une culture de... tous les gens embauchés sont assez seniors, donc de la liberté, de ce que tu peux faire, de la vacances illimitées, etc. Ça, c'est ce que tout le monde dans l'entreprise a, mais ça a forcément un impact de l'avoir en tant que sales, parce que c'est des choses que tu vas pas forcément avoir. Donc ça a pas mal d'impact. Après, ça dépend aussi beaucoup du produit que tu vends. Nous, le produit qu'on vend, c'est un produit qui est assez technique, sur lequel il faut beaucoup de travail, beaucoup de connaissances, donc qui est différent. D'une boîte à une autre, on peut vendre un service super engageant qui coûte des dizaines de milliers d'euros par an. On peut vendre des imprimantes, par hasard, et tu peux aussi vendre un produit qui est très peu engageant, que tu vas vendre en une fois et qui coûte très peu cher. Donc en fait, ton approche sales et tes cycles de vente vont être très très différents et vont impliquer du coup une différence dans ton job au jour le jour et dans ton approche de tes clients et dans les types de leads auxquels tu vas parler qui va être pas mal différent, quoi. Donc l'avantage d'Alan là-dessus, c'est d'avoir des cycles de vente qui sont assez longs, parler à des interlocuteurs qui sont plutôt seniors et avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges qui sont assez intéressants. Et de leur vendre un produit qui va en plus potentiellement un peu changer leur vie, changer la vie de leurs salariés en leur offrant un meilleur service que ce qu'ils avaient historiquement, quoi.
Et pour parler de conseils, notamment à des étudiants ou des jeunes diplômés qui ont envie de s'aventurer dans le métier de commercial, pour toi, quelles sont les bonnes questions à se poser et la bonne grille de lecture à avoir en tête pour faire le bon choix de son premier job en tant que commercial ?
C'est assez difficile à distinguer quand tu commences et que tu ne l'as pas encore fait, mais c'est la question que peu se posent parce que peu ont conscience qu'il faut se la poser, mais alors que c'est une des questions les plus importantes. Donc déjà définir dans quel type d'environnement tu as envie de travailler, est-ce que tu veux travailler dans une très grosse boîte, dans une boîte de 10 personnes ou dans une boîte de 200, ça c'est un peu le premier sujet, et puisque ça va avoir pas mal d'impact sur ta capacité sales. Ensuite, voir que vend la boîte, est-ce qu'elle est plutôt sur un marché B2B, B2C, à qui tu vas devoir vendre ton produit, à quel point le produit est engageant, à quel point les cycles de vente sont longs, parce que comme je disais tout à l'heure, vraiment, si tu as d'une entreprise à un autre, d'un produit à un autre, ton métier de sales, il change du tout au tout, donc comprendre si tu veux vendre un service ou un produit, déjà, je pense que c'est une bonne première étape. Est-ce que je vais vendre des plateaux repas chez Frishti ou est-ce que je vais vendre un abonnement chez Payfit au RH pour qu'ils puissent gérer leur paie de manière plus simple? Donc, tu as tout ce sujet un peu aujourd'hui SaaS, donc Software as a Service VS Produit. Donc, ça, c'est un peu le sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure, un peu la taille de la boîte, le type d'équipe commerciale, parce qu'une équipe commerciale de 2 personnes et une équipe commerciale de 30 personnes, forcément, tu n'auras pas les mêmes opportunités forcément dedans et pas les mêmes manières de vendre et pas les mêmes choses. Donc, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est de faire ce que j'ai fait parce que c'est ce qui m'intéressait. Mais le bon niveau, c'est d'arriver assez tôt pour avoir quand même les mains libres et de la place pour construire des choses. Pas trop tôt non plus parce que sinon, il n'y a pas de budget, pas d'outils et c'est un petit peu compliqué. C'est un peu le choix que j'ai fait aussi. Je suis arrivé à un moment un peu early chez Frishti. Ce que j'ai voulu faire en arrivant chez Alan aussi, c'est arriver dans une équipe sales qui était très, très outillée, très, très pointue sur beaucoup de sujets, et ce qui allait me permettre d'aller beaucoup plus vite partout. Donc voilà, les questions à se poser, c'est produit vs service, taille de la boîte, type de produit à vendre, un peu cycle de vente, est-ce que je vais mettre 6 mois à vendre mon truc ou est-ce que je vais mettre 2 mois Et ça va beaucoup, beaucoup conditionner les salaires et les variables, hein, ce qui fait que ça va aussi pas mal conditionner l'appétence de certains, je pense, pour tel ou tel poste.
Avant de passer à d'autres conseils, une petite question pour conclure un peu tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent. Ce serait qu'est-ce que tu adores et tu détestes dans ton métier aujourd'hui?
Bonne question. Ce que j'adore, le contact, les relations, que ce soit en interne ou en externe, donc dans le management d'équipe ou dans la discussion avec des clients sur des sujets sur lesquels on discute pendant assez longtemps, sur des cycles de vente qui sont assez longs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. Échanger et faire en sorte que ce que je vais venir apporter à mon client, c'est quelque chose qui va un peu lui changer, entre guillemets, son quotidien, peut-être même sa vie, et faire en sorte que, voilà, je vois un truc qui va vraiment l'aider à être mieux tous les jours. Donc en mangeant mieux chez Frishti ou en se soignant mieux chez Alan, par exemple. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Ce qui me déplaît, bah, c'est très différent parce que chez Frishti et chez Alan, je faisais des choses qui étaient assez différentes. Mais ce qui peut me déplaire, je pense assez vite, c'est ça peut être la redondance de certaines missions. Donc il y a des choses qu'il faut faire qui peuvent être de temps en temps assez semblables à d'autres, même si chaque client est différent et chaque cas est différent. Mais il y a forcément un petit peu une partie toujours du job qui peut être un peu redondant et un peu répétitif. Donc ça peut être un piège et un obstacle auquel il faut faire gaffe.
On a déjà un peu parlé du type d'entreprise ou du type de produit, donc avoir ces deux éléments en tête pour faire son choix en tant que commercial. On a moins parlé du métier à proprement parler, donc on a déjà, tu as mentionné le métier de SDR, le métier de business developer. Justement, sur tous ces intitulés de poste, il y en a beaucoup de différents en fonction des startups. Quelles sont pour toi les différentes typologies de métiers et comment faire son choix pour que ça corresponde au mieux à nos attentes?
Je pense que la grande chance qu'on a, notre génération, et je pense que c'était déjà le cas de la génération avant, donc depuis 15-20 ans, c'est que toutes les fiches de poste sont accessibles en ligne. Et en fait, il n'a jamais été aussi simple de comprendre, même si c'est toujours un peu difficile en étant hors du contexte, mais il n'a jamais été aussi simple de pouvoir se renseigner sur ce qui se passe. Donc en fait, aujourd'hui, tu as une boîte qui peut potentiellement t'intéresser, tu vois qu'il y a un job qui t'intéresse, tu vas avoir des centaines de lignes sur le job avec pas mal de contexte. Tu vas avoir peut-être une page Welcome to the Jungle où tu vas pouvoir voir un peu combien sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, où sont les bureaux, voilà, tout ce contexte-là. Et tu vas avoir pas mal d'autres éléments qui tournent autour. Donc ça va te permettre de pouvoir un peu mieux choisir et mieux te diriger. Donc moi, ce que je conseillerais toujours, c'est de beaucoup se renseigner là-dessus. Tu peux aussi voir sur LinkedIn combien il y a de gens, quels sont leurs postes, quel est leur âge moyen pour voir si c'est une boîte plutôt jeune ou pas. Envoyer un message en direct à telle ou telle personne qui font un job similaire. Moi, c'est des choses des messages que je reçois beaucoup et des gens qui me demandent ce que je fais, pourquoi je suis là, comment ça se passe, comment avoir des conseils. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire pour pouvoir qualifier un peu le job. Et ensuite, sur les métiers de sales, en gros, selon ce que tu vends, il y a un peu 3, 4 métiers qui sortent du lot avec deux groupes principaux. Le premier groupe qui va être un peu plus sur la partie SDR Business Development, qui va être très porté sur l'acquisition, sur un job assez commercial. Et une deuxième partie du job qui va être plus sur des métiers d'account executive ou d'account manager, qui vont plus être sur la gestion de clients existants, donc où il faut une grosse partie de job commercial également, mais qui est moins intense, qui fait dans voilà, la pression d'aller chercher de nouveaux clients et d'aller pitcher des produits auprès de gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc c'est un peu les deux types de métiers. Donc déjà, il faut définir si tu es plus un hunter, donc, ou un farmer, donc quelqu'un qui va plutôt entretenir le business. Ça, c'est déjà assez important à définir. Et après, bon, les métiers évoluent, hein. Il y a les métiers de sales manager, donc là, qui prennent en considération du pilotage d'activité, du management de personnes. Ça, c'est pas forcément toujours pour des sorties d'école, mais ça peut arriver très vite. Donc voilà, moi, je dirais, voilà, bien bien regarder un peu tous ces éléments consécutifs à la boîte et un peu ces deux typologies de métiers, un peu hunter vs farmer, quoi.
Ok, super clair, ouais. Et pour toi, qui a recruté et qui a managé aussi pas mal de gens, comment faire, tu vois, se démarquer en entretien, comment faire la différence, tes conseils pour convertir un job qui te plaît en un job que tu vas faire?
Je pense que déjà pour être bon en entretien, il faut vouloir être à cet entretien-là. Donc moi, je suis jamais trop fan d'avoir 10 process en même temps. Moi, chez Fristi, quand je suis arrivé, j'avais trois process qui étaient très équivalents et je savais que les trois m'intéresseraient et qu'il y en avait potentiellement un qui m'intéressait plus, qui était Fristi. Quand je suis arrivé chez Alan, j'ai postulé nulle part, parce que, en l'occurrence, il était venu me chercher, mais il y avait des discussions et j'ai pas lancé d'autres process en même temps. Donc, je pense que la meilleure manière d'être un peu le meilleur, c'est de vraiment vouloir, enfin, de pas faire de compromis, d'avoir en tête la vision très claire de ce qu'on veut faire à peu près, ou du type de boîte, d'en choisir deux, trois et de vraiment se concentrer dessus, quoi. Envoyer 40 CV à 40 boîtes un peu semblables, je pense que ça c'est un peu comme du sales, hein. Contacter 40 clients de manière un peu automatique, personne ne va te répondre, alors que si tu en contactes 4, 5 de manière super pointilleuse, avec plein d'infos et en ayant mis un peu de contexte, ça peut le faire de la meilleure des manières. J'ai en tête une meuf qui a pas mal buzzé ces derniers jours sur Twitter et sur LinkedIn, qui avait fait un CV en mode page d'équipe, qui a eu énormément de visibilité. Bah, elle voulait bosser chez l'équipe. Je sais pas si ça a marché, mais elle a fait le truc le plus ciblé possible. Et c'est comme ça qu'elle a acquis sa reconnaissance. Donc, je pense qu'il faut vraiment déjà montrer en entretien que je suis pas là pour rien et que je suis pas quelqu'un parmi d'autres. Donc ça, c'est le sujet. Et ensuite, je pense qu'il y a un gros enjeu de compréhension de, en fait, en faisant ce travail de bien lire la fiche de poste, bien comprendre comment fonctionne la boîte, essayer de comprendre un peu la culture, essayer de voir un peu qui bosse là-bas, d'échanger un peu avec les gens sur LinkedIn qui travaillent dans cette boîte-là, tu comprends peut-être plus facilement les enjeux de la boîte et ce qu'ils cherchent. Souvent dans les fiches de poste, tu as des fiches de poste qui sont un petit peu génériques, mais tu en as pas mal qui te donnent beaucoup, beaucoup d'indices, un peu d'indices cachés qui te disent, voilà, on cherche tel type de profil, on cherche tel type de truc. Donc si ça correspond à ce que tu cherches à tel moment, bah, il faut comprendre dans les yeux du recruteur, quels sont ses enjeux à lui et qu'est-ce que lui il recherche dans ton profil. Est-ce qu'il recherche quelqu'un qui est plus fort là-dessus, plus fort là-dessus, plus fort là-dessus? Et ça te donne peut-être même l'opportunité de bosser sur certains sujets avant ton entretien pour te dire, écoute, là, je pense que je suis un peu plus léger sur ces sujets-là. Je vais le bosser un peu plus pour être sûr qu'en entretien, de paraître vachement bon sur ce sujet-là et au moins de prouver que je suis en train de travailler dessus. Donc voilà, je dirais comprendre vachement les enjeux des recruteurs. Et après, voilà, il y a une posture en entretien. Évidemment, ça c'est un peu la base, mais de se mettre dans une bonne posture avec une bonne attitude, de comprendre aussi voilà comment se saper par rapport à la boîte dans laquelle je vais, comment parler par rapport à la boîte dans laquelle je vais, comment interagir avec les gens que je rencontre. Ça c'est super important et ça te permet de cartonner un entretien et de jamais te faire refuser ensuite.
Ok, très clair. Une fois en poste, donc un autre type de conseil un peu similaire, mais je serais curieuse de savoir un peu ton avis sur, avec le recul du coup, de tes premières expériences en tant que commercial, comment pour toi te démarquer une fois en poste et comment faire en sorte de progresser le mieux possible en tant que commercial?
Bah la clé c'est le travail, hein. L'avantage du métier de sales c'est que les objectifs ils sont assez clairs. En fait contrairement à un taf, par exemple je sais pas, tu es concepteur rédacteur ou je sais pas, tu travailles dans l'équipe communication d'une startup, tes KPI ils vont être beaucoup plus difficiles à traquer. On va dire il faut que tu fasses ça, t'as un projet sur lequel il faut que tu bosses pendant X temps, etc. Donc en gros la manière de juger ton travail elle va être beaucoup plus subjective, et elle va vachement dépendre des personnes qui te manageront et qui de l'œil qu'ils porteront sur ton travail. La chance que tu as en sales, c'est que quand tu es pure sales et quand imagine, tu commences ta carrière en tant que business dev, tu dois aller chercher, tu dois signer 20 entreprises par mois, enfin, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, pour un chiffre d'affaires de X euros. Ben, en fait, ces chiffres-là, ils sont écrits, ils sont validés, ils sont vus au-dessus de toi, de ton manager, de toute la boîte. Et donc, il n'y a pas plus simple, entre guillemets, si tu veux aller les chercher et les dépasser, parce que ils sont écrits et ils sont clairs. Donc, en gros, soit tu y arrives tout seul parce que tu as déjà les bonnes armes, et dans ce cas-là, bah, pars avec ton bâton de pèlerin et fais en sorte de te défoncer. Soit tu te rends compte que tu n'as pas encore les bons éléments en main pour le faire, et dans ce cas-là, tu as tout un entourage de ta boîte qui est là, qui a des outils, et donc qui peut. C'est à toi de demander, écoutez, moi je pense que je peux faire mieux que ça, mais il me faut tel outil, tel outil, tel outil, il me faut telle formation, parce que là, je suis encore un peu léger sur ce sujet-là. Donc en fait, toutes les clés sont dans tes mains en fait pour pouvoir le faire. Donc une fois que tu as fait tout ça, il suffit juste de beaucoup beaucoup travailler, parce que tes objectifs ils ont été fixés sur une base de je travaille toute la journée, je travaille bien, je suis efficace. Mais donc du coup, si tu donnes un peu d'extra mile et que tu fais un peu l'effort supplémentaire pour démarrer, pour mieux apprendre sur certains sujets et donc pour être plus véloce à terme, franchement, personne n'aura de difficulté à aller chercher l'extra mile et un peu l'overachievement, qui est beaucoup recherché en sales sur ces sujets-là et qui te font monter vachement plus facilement après parce que on va te faire confiance, parce que tu auras déjà un peu dépassé les attentes, quoi.
Ça, c'est clair, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais donc pour finir, j'aimerais bien te poser les deux questions que je pose toujours. Donc la première, c'est si tu devais me convaincre en 30 secondes que tu avais le meilleur job sur Terre, qu'est-ce que tu me dirais?
Bah écoute, j'ai le meilleur job parce que je suis persuadé d'être allé au bon endroit et d'avoir choisi le bon métier au bon endroit. Pourquoi c'est le bon endroit? Parce que moi, je jauge l'entreprise que je rejoins à son ambition et à son marché. Donc, Alan se donne les moyens de son ambition en voulant révolutionner le monde tout en ayant une approche qui soit top pour ses salariés, hein. C'est important d'avoir des bonnes conditions également, un bon salaire, la nourriture qui est payée, les congés limités, etc. C'est des choses qui te mettent dans des bonnes conditions pour ensuite bien réussir, je pense. Et donc voilà, moi c'est un bon métier pour moi parce que c'est un métier qui me rend extrêmement heureux. Et donc, je sais pas si c'est le meilleur du monde, mais en tout cas c'est le meilleur du monde pour moi.
C'est tout ce qu'on souhaite finalement. Et l'autre question, ce serait plutôt, est-ce que tu peux me raconter une bourde qui t'est arrivée au boulot récemment, dans ta vie pro?
Bonne question. Je suis pas trop de gaffe, moi. J'ai un peu de la chance là-dessus, contrairement à pas mal de mes potes que j'ai vu faire des trucs assez folkloriques. Non, c'était pas trop une gaffe, mais c'est un peu un fun fact slash gaffe. Ça me fait penser à ça. J'avais la Banque de France en client quand j'étais chez Frishti. Et donc j'étais en rendez-vous avec la directrice des services généraux de la Banque de France. Et elle me fait visiter les locaux de la Banque de France qui sont gigantesques dans le premier arrondissement. Et en fait, j'avais plus trop de trucs à dire. Donc, c'est important en tant que sales sur un meeting d'avoir pas mal de choses à dire, pas mal de contexte. Et je pense que j'avais pas assez fait assez bien fait mon travail sur ce sujet-là. Donc, j'étais un peu arrivé à court de discussion. Et du coup, à un moment, enfin, j'avais plus de sujet. Donc, je commence à parler du building, quoi. Je dis, mais ah ouais, là, il y a combien d'étages du coup? Ah, 3 étages. Et en fait, elle me répond, il y a 3 étages, mais il y a 8 étages en sous-sol. Du coup, je la regarde un peu interloquée, je dis, mais vous avez des gens qui travaillent au 8e sous-sol, comment ils font? Ils n'ont pas de lumière, etc. Et là, elle s'arrête, elle me regarde, je dis, non, il n'y a personne qui bosse aux 8 étages, aux 8 sous-sols, c'est simplement toutes les réserves d'or de la France, quoi. Et du coup, j'étais genre, ah oui, en effet, pardon, plutôt logique, je me suis un peu piégé, donc c'est un peu un piège de, j'ai peut-être pas assez bossé mon rendez-vous, genre, j'avais pas assez de trucs à dire, et j'aurais peut-être dû plus réfléchir à ce qu'elle m'a répondu, parce que ça semblait un peu logique qu'à la Banque de France, il y ait plutôt. De l'or dans les sous-sols plutôt que des petits travailleurs sans fenêtre, quoi.
Ça arrive, ça arrive. Écoute, avant de terminer cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou que tu aimerais ajouter?
Pas particulièrement, non. Mais sur la partie vraiment premier job, première expérience, je pense qu'il faut pas hésiter à avoir enfin, être extrêmement ambitieux sur ce qu'on recherche. Jamais faire de compromis. Au début, je cherche ça, je veux bosser là-dedans. Bah, écoute, si ça me prend 3 mois de plus, parce qu'il n'y a pas de poste à ce moment-là, bah, je continue à aller. De pas prendre forcément un job pour prendre un job et de vraiment voir la vision, la mission du job, de l'entreprise qu'on rejoint ou de celle qu'on veut monter. Et donc, de vraiment, voilà, aller chercher un peu l'extra mile et l'ambition la plus forte possible sur ce truc-là, sans être forcément, voilà, il y a des gens qui s'en fichent un petit peu, qui veulent vivre plutôt leur vie perso ou autre, mais c'est important vraiment de trouver un bon endroit parce que l'endroit dans lequel tu vas arriver, il va peut-être t'accueillir pendant 6 mois, mais il va peut-être t'accueillir pendant 3 ans, pendant 10 ans, donc c'est important de faire le bon choix, quoi. C'est un peu comme un couple, la boîte que tu rejoins, il faut qu'elle soit top à tout niveau et il faut pas trop faire de compromis sur ça, quoi.
Super, bah merci beaucoup pour ton temps Antoine. Merci de nous avoir expliqué ton parcours et ton métier. J'espère que ça t'a plu et je te souhaite une excellente journée.
Yes, carrément. Bah, merci beaucoup pour ton temps également. C'était un plaisir. Et voilà, merci, c'était top.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Antoine pour décortiquer son parcours d'entrepreneur et de commercial dans deux startups emblématiques de la French Tech. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour avoir accès aux ressources d'Antoine et découvrir nos fiches métiers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à suivre notre page Instagram @vocation.co et surtout à en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite sur Vocation.